Vous écoutez RTL.
RTL.
Quand on est sous l'eau, on est dans l'apesanteur la plus totale. Un monde entier à découvrir.
Qu'est-ce qu'on attend ?
Calypso.
Tu vas pas acheter ça ?
Ah bah c'est déjà fait.
Ce bateau, c'est notre rêve à tous les deux qu'on va réaliser.
La curiosité est un vilain défaut.
Tu vas pouvoir raconter une belle histoire, bien bidon, bien mégalo comme thème, hein. Le commandant Cousteau et son équipage se lient d'amitié avec des animaux sauvages, mais c'est super.
Il y a plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau monde.
Je voulais le conquérir, alors qu'en fait, il fallait le protéger.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mais il est encore temps.
Une vie au large, une vie en marge, c'est le destin puissant de l'explorateur Jacques-Yves Cousteau que l'on vous raconte dans la curiosité à l'occasion de la sortie du film L'Odyssée au cinéma avec Lambert Wilson dans la peau du commandant. Jérôme Salle, vous êtes le réalisateur du film, on a adoré votre film et on va en parler, on a adoré votre histoire aussi. Yves Pacalet, vous êtes écrivain, naturaliste, philosophe et c'est votre livre Capitaine de la Calypso qui est publié chez Artaud qui a inspiré justement le scénario du film. Vous avez navigué avec le commandant Cousteau?
J'ai beaucoup navigué, pendant 18 ans, enfin pas toujours sur la mer, hein. J'ai navigué surtout sur des projets de protection de la nature, puis aussi de présentation des beautés de la mer, des beautés de la forêt, des beautés des rivières, dont on espère qu'elles dureront encore quand même un petit peu.
C'était quel genre d'homme, le commandant Cousteau ?
Cousteau, c'était essentiellement un séducteur. Il avait des grandes idées, il avait des grands projets. Il savait capter ce que pouvaient lui apporter les uns et les autres. Il a co-inventé, en fait, il n'a pas inventé, il a rendu possible l'invention des autres, le scaphandre autonome, la soucoupe plongeante, la turbo-voile, etc. Et il a donné à tout le monde la capacité de donner une réalité à ses propres rêves.
Il voyait grand. Moi, c'est ce que j'ai retenu de votre film, Jérôme Salle, c'est quelqu'un qui voyait grand.
C'est quelqu'un qui avait des rêves, qui avait beaucoup de rêves et qui a, disons, mis toute son énergie au service de ses rêves. Il a réalisé quasi tous ses rêves, à part le tout premier qui était de voler, qui était de devenir pilote. Mmh. Et je l'évoque dans le film, puisqu'il a eu un accident de voiture assez grave lorsqu'il avait 25 ans, qui l'a empêché de devenir pilote, qui était son premier rêve. Mais si ce n'est ce tout premier rêve, oui, je crois qu'il a réalisé quasiment tous ses rêves. Mais c'était un homme passionnant pour ça. Et d'ailleurs, ses rêves, ils ont été réalisés parfois, on en reparlera, j'imagine, au détriment de ses proches.
Pourquoi vous aviez envie de raconter sa vie, la vie du commandant Cousteau, Jérôme Salle? Parce que je sais que vous êtes battu pendant des années pour réaliser cette histoire, la raconter.
Parce que je trouve que c'est un homme qui raconte le XXe siècle. Dans le rapport de l'homme avec les médias, dans l'évolution du rapport de l'homme avec la nature au cours du XXe siècle. Et c'est une famille, en plus, au-delà de ça, d'une façon plus intime, tout à fait exceptionnelle. Donc c'était la possibilité de faire un grand film d'aventure, très français, qui soit à la fois épique et intime. C'est rare d'avoir ce genre de sujet.
C'est tellement formidable que parfois je me suis dit, c'est très américain. Cette épopée,
justement, c'est pas du tout
américain. C'est grandiose, et humaniste.
Ouais, mais je me bats contre ça. Des fois, on me dit, ah, c'est formidable, c'est spectaculaire, c'est à l'américaine. Et je dis, ben non, c'est très français, au contraire. Et j'aimerais bien, justement, qu'on arrête de penser que le cinéma français ne peut pas être spectaculaire.
Bah, vous en avez de la preuve.
Voilà, j'espère.
Bah oui, c'est une belle histoire française, c'est le moins qu'on puisse dire. Yves Pacalet, est-ce qu'il avait le sentiment de sa grandeur, le commandant Cousteau?
On lui a reproché,
c'était un peu mégalo, quoi.
On lui a reproché d'avoir parfois la grosse tête sous son bonnet rouge, c'est sûr. Mais en même temps, les journalistes qui l'interviewaient voulaient l'interviewer lui, personne d'autre. C'était la vedette. Alors, il avait de quoi quand même avoir un peu cette grosse tête. Je me souviens de la grande conférence internationale sur le climat de Rio de Janeiro en 92. Il a été présenté sur la scène avant tous les chefs d'État de la Terre. Il était le capitaine planète. Il était celui qui inspirait la confiance à l'ensemble de la population du monde pour pouvoir sauver cette terre. Alors c'était quand même, il avait aussi les pieds sur terre, il savait faire la part des choses. Hein. Personne ne peut avoir la grosse tête au point d'oublier sa petitesse aussi. Il y en a, chacun en a un petit peu.
Cousteau, pour les plus âgés d'entre nous, ce sont des films merveilleux qu'on a découverts à la télévision comme L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau. Souvenez-vous du générique. Jérôme Salle, vous étiez fan de cette série?
Quand j'étais enfant, ouais, j'adorais. Moi,
ça racontait quoi?
Ça racontait le génie de Cousteau, c'est qu'il a inventé la télé-réalité en fait avec cette série de films, puisqu'en fait au lieu de filmer, enfin c'est ce qu'il dit dans le film aux producteurs de ABC lorsqu'il leur vend le projet, au lieu de filmer des poissons ou des animaux, il filme des hommes qui filment des poissons. Donc c'est une histoire d'homme et c'est ça qui a toujours fasciné tout le monde. Et moi je rêvais d'embarquer sur ce bateau.
12 films qu'il a vendus, vous dites, aux Américains. Mais pourquoi aux Américains? Les Français n'en voulaient pas? La télévision française n'était pas passionnée par ces histoires?
Si, mais il a rencontré, en l'occurrence, j'en parle un peu dans le film, il a rencontré un producteur qui était grand talent qui s'appelle David Volper et qui lui a proposé de faire cette série. C'est lui aussi, c'est vraiment la rencontre de David Volper et Cousteau qui a donné cette série.
Yves Pacalet, son bonnet rouge, là vous disiez une grosse tête sous un bonnet rouge, c'est lui qui en a eu l'idée qui,
L'idée elle est venue des scaphandriers lourds qui portaient ce bonnet rouge à la fois pour éviter de se cogner à leur scaphandre qui était un peu dur et puis aussi qui était un symbole de la révolte qui était porté par les bagnards et les scaphandriers s'imaginaient bien en bagnards, ils étaient des bagnards, leur vie est très difficile et d'ailleurs très, très périlleuse. Mais du coup, il a adopté ce signe de reconnaissance qui a formidablement bien marché. Hein.
Oui, parce que c'est un coup de com'. Il comprend ce qu'est la télévision, ce qu'est le pouvoir de la télévision.
Il crée un personnage.
Et il crée un personnage.
Bien sûr, il crée un personnage. C'est pour ça que je dis qu'il raconte le XXe siècle, parce que ça a été quand même. Il fait partie de cette génération qui a découvert ce qu'était la célébrité mondiale. Il faut bien voir qu'à l'époque, Cousteau faisait partie des hommes les plus connus au monde. Mmh. Pas en France, au monde. Et en fait, il a créé ce personnage et surtout, il a compris, et c'est là où c'est aussi un symbole de la pop culture, il a compris qu'il fallait qu'il crée ce personnage visuellement. C'est-à-dire qu'il était, à la fin de sa vie, il était habillé tout le temps de la même manière, il y avait le bonnet, il y avait la saharienne, il y avait des codes comme ça extrêmement simples, mais qui faisaient qu'il pouvait être reconnu dans le monde entier très rapidement.
Alors comment Cousteau a eu l'idée un jour de prendre le large, de tout quitter pour vivre 20 000 lieues sur et sous les mers? Le récit dans un instant, les curieux.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
RTL.
Jacques-Yves Cousteau est mort mercredi à Paris. Il était dans sa 88e année. Cet homme, maître par le matériel et par l'image de l'exploration des océans, fait figure de héros pour les Français.
La curiosité est un vilain défaut.
La mer est menacée, je le sais bien. La pollution augmente, le littoral se couvre de béton.
Cousteau disait, le plongeur, s'il cesse de nager, reste entre deux eaux comme un archange.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
L'Odyssée du commandant Cousteau, une vie à explorer les fonds sous-marins, une vie à pousser les limites, aussi les limites de la découverte, les limites de la notoriété, c'est ce que l'on vous dit depuis quelques minutes avec nos deux invités, Yves Pacalet qui publie Capitaine de la Calypso aux éditions Artaud, livre qui a inspiré le scénario de votre film Jérôme Salle, film superbe. Allez-y, on l'a vu la semaine dernière avec Sidonie et on a tous les deux beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai lu que, et je suis assez d'accord avec le critique qui disait ça, ce film aurait mérité de représenter la France aux Oscars. Il n'y est pas, pourquoi?
Parce qu'on est sorti.
Question de timing, c'est ça?
Oui, il y a une date limite qui est, je crois, 30 septembre, et nous, on sort le 12 octobre, donc on ne pouvait pas y aller.
C'est un petit regret, ça?
Non, moi, honnêtement, je ne fais pas des films pour les. Enfin, non, mais je serais ravi. Hein,
pour les Américains?
Non, c'est pas ça. Je ne fais pas des films en pensant aux statuettes ou à tout ça. Je fais des films, voilà, j'ai envie de les réussir, j'ai envie que les gens aiment le film. Après, bon, voilà, ça peut être the cherry on the cake, comme disent les Américains. mais je pense pas à ça, donc j'ai pas de regret là-dessus. Là, je suis juste avant la sortie. J'ai juste envie que les gens aiment le film.
Si on remonte un peu, parce que là, on a brossé le portrait un peu général de Cousteau. On va peut-être raconter. Qui il était avant de devenir Cousteau, c'est-à-dire avant de devenir cette star mondiale. C'est un officier de marine, c'est ça?
Oui, c'est un officier de marine, c'est un homme qui était, enfin, comme je disais tout à l'heure, c'est un homme qui souhaitait être aviateur au départ, qui a fait aéronaval, c'était les prémices, et qui suite à cet accident de voiture en, je ne sais plus, les 25 ans je crois, de mémoire, a dû faire de la rééducation pour son bras. Il a failli être amputé du bras, il a refusé qu'on l'ampute du bras parce qu'il voulait continuer à poursuivre ce rêve de piloter. Il est allé à Toulon, et là il a rencontré un monsieur qui s'appelle Taïez, qui plongeait déjà, et qui lui a dit, mais au lieu de te torturer sur des machines, viens, on va aller plonger ensemble, ça va faire du bien à ton bras. Et il a découvert en fait le monde sous-marin en mettant un masque à ce moment-là pour rééduquer son bras en poursuivant toujours ce rêve d'être aviateur.
Puis vient l'idée, Yves Pacalet, de filmer sous l'eau, c'est ça, avec les mousquemères, ses compagnons. Ils vont avoir cette idée de rapporter aux humains qui sont sur Terre ce qui se passe en dessous.
Mais Cousteau a toujours voulu montrer les choses. Il a d'abord voulu faire des grands films, il en a fait 4 au total, et il s'est lancé dans la télévision parce qu'il pensait que pour montrer à davantage de personnes encore, c'était le bon média. Et ça, il l'a fait délibérément. Alors c'est vrai qu'après l'invention du scaphandre autonome pendant la Seconde Guerre mondiale...
Faut nous dire ce que c'est.
Le scaphandre autonome, c'est simplement un petit appareil qui permet de respirer à la pression ambiante, c'est-à-dire qu'on peut plonger en ayant pratiquement aucun des inconvénients qu'on a quand on est un simple nageur.
Voilà. Ce qu'on utilise tous aujourd'hui, finalement.
C'est la liberté dans la mer. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en fait, tout le monde en plonge, tout le monde plonge.
Enfin, tout le monde, quand on a la chance de,
on se comprend.
De pouvoir...
Tous les gens qui plongent, quoi.
Voilà, de pouvoir
plongeurs,
plonger sous-marine avec...
Les hommes grenouilles, en fait, à la première époque.
Mais Cousteau a fait sa plongée la plus profonde, à 120 mètres de profondeur, sur l'épave du Britannique, en Méditerranée, quand il avait déjà 67 ans. Et donc, ça prouve que tout le monde peut plonger. Alors, peut-être pas à 120 mètres, peut-être pas, quand même.
Comment Jérôme Salle Jacques-Yves Cousteau, qui a une famille, qui vit à Marseille, il a une femme, il a deux enfants, il est un peu posé, il fait ses films qui marchent bien. Il a cette idée de partir, de quitter la côte, d'aller au large et de vivre
mais
tout le temps là-bas.
Oui, mais c'est un homme qui fonctionnait comme ça. Je disais tout à l'heure, je crois que le trait de caractère le plus marquant chez Cousteau, c'est la curiosité. Vous voyez, ça tombe bien pour votre émission. Donc en fait, c'est la curiosité qui l'a toujours guidé et il ne s'est jamais satisfait de ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais posé. Il a toujours voulu aller plus loin, il a toujours voulu explorer. Voilà, donc c'était dans cette logique.
Et pour ça, il lui faut
une femme.
Et un bateau.
Et un bateau. Mais moi, j'ai dit une femme en premier parce que.
Dans cet ordre, c'est bien.
Parce qu'elle a joué un rôle essentiel. Alors, Simone, elle est incarnée par Audrey Tautou dans le film. Très belle performance de comédienne aussi, il faut le signaler. Yves Pacalet, vous avez été à bord de la Calypso. Oui. Quel rôle elle jouait sur ce bateau?
Un rôle essentiel. D'ailleurs, Audrey Tautou l'interprète parfaitement. C'était une femme qui était un vrai marin. Elle disait qu'elle était la seule femme de marin qui attendait son mari à bord. Et à bord, c'est elle qui régentait vraiment les rapports entre les personnes. Elle était à la fois la consolatrice quand il y avait quelque chose qui n'allait pas avec un plongeur ou un marin. Elle apportait les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles. Elle déterminait dans quelle banette on allait coucher, dans quelle cabine, etc. Il fallait être bien avec elle pour avoir une bonne cabine. Véritablement, elle était l'âme du bord, elle a toujours été. Elle a été de la première à la dernière expédition à bord, et même la dernière expédition qui a été faite, elle était malade, mais malade, prête à mourir, elle est morte peu après. Elle a tenu absolument à faire cette mission-là, encore. On lui disait, vous allez vous casser, madame, avec les coups de mer, vous allez tomber. Bon, alors là, son langage de marin disait, m'emmerde pas, j'y vais. Voilà, c'était ça.
Il y avait Simone et le bateau, la Calypso. Jérôme Salle, la Calypso, c'est quoi à l'origine? Un vieux bateau qu'il faut complètement retaper?
Ah oui, c'est un dragueur de mine qu'ils ont récupéré à Malte, en fait, qui faisait le ferry entre Malte et Gozo, qui était dans très très mauvais état, et c'était un peu une folie parce qu'il y avait beaucoup de travail dessus. Il y avait un accord avec Lord Guinness qui le louait pour un franc symbolique par an, mais après il y avait tout le travail à faire pour le transformer en navire océanographique.
Et d'ailleurs, une des personnes qui l'a aidé à transformer ce navire, c'est votre co-auteur Albert Falco. Yves Pacalet, quel était son rôle? Parce qu'il a joué un rôle capital dans toute la vie des Cousteau.
Falco, c'était à la fois un plongeur, le meilleur des plongeurs, le plongeur qui a connu le plus de fond dans le monde, encore aujourd'hui, qui a exploré en tout cas le plus de fond dans le monde. Et c'était aussi un marin, un vrai marin, un capitaine. Moi, j'ai de souvenirs de voyages dans lesquels on a failli échouer la Calypso, dans lesquels on était dans des tempêtes abominables, entre les deux îles de la Nouvelle-Zélande, par exemple, un courant nous dressait droit sur les récifs. Et avec son instinct de marin, Falco dit, on y va, moteur à fond, on fonce dessus. Il avait compris qu'un contre-courant nous en éloignerait. S'il n'avait pas foncé à toute la vitesse du bateau sur ce récif, à la grande panique de tous ceux qui étaient à bord, et bien simplement le bateau aurait coulé, mais là le bateau a été sauvé. C'était ça, Falco, c'était l'instinct de la mer.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
RTL.
C'est la première fois que je vois des épaves où n'habite aucun grand poisson. Où sont les mérous, les murènes, les langoustes? S'ils existaient dans ce lagon, ils auraient logiquement élu domicile dans les épaves.
La curiosité est un vilain défaut.
Cousteau se déplace toujours avec une grande économie de gestes pour profiter au maximum de son unique bouteille d'air.
L'atmosphère est tendue. Peu de mots sont échangés. Chacun sait très bien qu'il n'y a pas de place pour la moindre erreur.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est un destin comme on les aime dans la curiosité sur RTL, celui d'un héros français. On vous raconte l'histoire du commandant Cousteau à l'occasion de la sortie de l'Odyssée, film de Jérôme Salle, et puis du livre d'Yves Pacalet, capitaine de la Calypso, qui est publié chez Artaud et qui a inspiré le scénario du film. Yves Pacalet et Jérôme Salle sont avec nous. Il y a une scène incroyable dans votre film, Jérôme, c'est une scène au milieu des requins. Comment vous l'avez tournée?
Avec des requins.
C'est des vrais requins. Et des vrais gens, des acteurs.
On n'a pas, été très créatifs, on l'a fait avec des requins. Non, l'idée
pas
de départ.
De fond vert,
non, pas de fond vert. Justement, l'idée de départ du film, c'est comme c'est un film sur la nature aussi, c'était de filmer cette nature. Et donc de ne pas tourner ça comme un film de super-héros avec plein d'effets spéciaux et de fond vert. Donc dès qu'on a pu, tout ce qu'on a pu, on l'a filmé dans la réalité de la nature. Magnifique. Et donc les requins, on a tourné cette séquence aux Bahamas avec donc des vrais requins.
Un peu méchants et énervés aussi, non?
Non, parce que les requins ne sont pas méchants. Non, je voudrais en profiter.
Ah,
oui,
ah pardon, ça, énervé.
Voilà. On l'a
non,
déjà dit ici.
Ni énervé,
excité,
ni énervé.
Par l'homme.
Curieux.
C'est une majesté. Non, mais d'abord, ils sont très curieux, effectivement, ils sont très impressionnants parce qu'on a tous vu les dents de la mer. Donc, non, mais je vais pas vous dire, j'avais pas peur en plongeant. J'avais jamais plongé avec des requins. Et Pierre, Ninet et moi, quand on a plongé, on avait peur. Mais en même temps, on est devenu serein assez rapidement. Et en fait, il y a quelque chose de très doux, de très calme. Ils ont une telle puissance, d'ailleurs, qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'être énervés parce qu'en fait, c'est un peu les rois de ce domaine. Et je voudrais juste rappeler un simple chiffre, moins de 10 victimes humaines par an dues aux requins et 100 millions de requins tués de la faute de l'homme. Oui.
Voilà, ils prenaient des risques quand même, la famille Cousteau, quand ils descendaient comme ça, filmés avec leur caméra au bout du poing.
Honnêtement, avec les requins, vous prenez pas de risque. Vous pouvez des risques. Non, vous prenez un risque, peut-être comme avec un chien. Si vous jouez avec un chien, vous prenez un risque. Oui. Voilà, ni plus ni moins.
Sauf qu'on a dans la tête l'imaginaire, effectivement, construit par le cinéma et notamment par les Dents de la Mer. Yves Pacalet, quand vous plongez, vous, au milieu des requins, vous pensez pas à ça, à cet imaginaire.
Non, mais les requins sont des animaux dont les grandes espèces ont des grandes dents. Ça, c'est vrai. Ça peut en effet faire du mal à celui qui le reçoit. Mais la plupart du temps, ils préviennent quand on vient sur leur territoire, parce qu'on est dans leur territoire.
Ils
ont des manifestations, c'est-à-dire qu'ils se plient en deux, ils commencent à avoir des mouvements un peu plus hachés. Et les accidents, quand ils arrivent, et en effet ils sont rarissimes, sont des accidents de personnes qui sont venues... sur le territoire même de ces squales. Et les squales, après avoir prévenu plusieurs fois, disent bah, « maintenant, il y en a marre, je mords ». Et je dis toujours, on ne sauterait pas à pieds joints dans la cage d'un pitbull. Et c'est exactement ce qu'on fait quand ils mordent.
On voit dans votre film, Jérôme Salle, que le commandant Cousteau a inventé une technique quand même pour remonter, en tout cas pour se protéger des requins. Pour les plongeurs, c'est le dos à dos, c'est ça ? Ça, c'est une invention ? C'est quoi cette invention ?
C'est effectivement pour toujours les avoir dans le champ de vision. Mais il faut savoir qu'aussi à l'époque, moi je situe cette scène dans les années 60, et en fait, ils avaient moins de certitudes qu'on en a aujourd'hui sur les requins. Donc, ils étaient quand même beaucoup plus craintifs que maintenant. Maintenant, on sait quand même, on connaît les requins et on sait que le risque est très mesuré. Nous, on faisait 4 plongées par jour pendant plus de 2 semaines pour tourner cette séquence. On était avec les acteurs. Les assurances nous avaient accordé ça. Alors, pas avec tous les requins, ils nous ont accordé ça, sauf avec les requins tigres et citrons. Ils trouvaient que c'était un peu gros quand même, les assurances. Donc il y avait, voilà. Là, on est allé avec les doublures. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Enfin, je veux dire, la comparaison, pour moi, c'est ça. C'est un animal sauvage, donc vous faites attention avec n'importe quel animal sauvage.
Il y a une invention qui est extraordinaire, c'est la maison sous la mer. Moi, ça m'a fait rêver. C'était le grand rêve de Jacques-Yves Cousteau. Il était sûr qu'un jour, on allait vivre sous l'eau.
C'est trompé.
C'est une idée. À l'époque, on pensait que les hommes allaient coloniser l'espace, qu'ils allaient coloniser les fonds marins, ça faisait rêver tout le monde, pas seulement Cousteau, l'ensemble de ceux qui pouvaient voir ces films à la télé. Et la maison sous la mer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu 3 expériences pré-continent, une à Marseille avec Falco, le premier océanote du monde, c'est Falco, c'est le premier qui a vécu pendant une semaine à 10 mètres de profondeur dans un caisson.
Et est-ce qu'il fumait ? Parce que alors, dans le film, on les voit fumer dans le caisson sous-marin, on se dit mais c'est complètement dingue.
À l'époque, tout le monde fumait partout.
Même là.
Et après, il y a eu une deuxième expérience pré-continent en mer Rouge, sur le récif de Chabroumier, et puis une troisième à 100 mètres de profondeur pendant un mois dans la baie de Villefranche, sur la Méditerranée. C'était un rêve, faire vivre des gens sous la mer à saturation, c'est-à-dire qu'ils avaient rempli leur sang d'azote, et ils pouvaient vivre autant qu'ils voulaient au fond, et la remontée prenait le même temps de décompression que s'ils avaient plongé qu'une fois.
Mais est-ce qu'ils tournaient finalement ces films pour la télévision, produits notamment par la télé américaine, pour financer ce rêve, c'est-à-dire pour construire cet habitat sous-marin, pour inventer encore de nouveaux, moyens de coloniser
À cette époque-là, en partie, je pense qu'il y a quand même 2 grandes époques pour Cousteau. Il y a une époque que j'appellerais l'époque Jules Verne, où il est effectivement dans ce rêve de coloniser l'espace sous-marin. C'est encore le fantasme des maisons sous la mer, des sous-marins géants, tout ce genre de jouets. Ouais. Et puis après, la sensibilité écologiste devient plus importante. Il abandonne un peu ce rêve qui est quand même évidemment un peu vain de coloniser la mer et de vivre sous l'eau. Et il se passionne pour des grands combats en fait qui concernent l'environnement. Donc c'est des époques très distinctes et ça fait partie du parcours et du cheminement de Cousteau qui, n'oublions pas, est né en 1910. C'est un enfant de Jules Verne, Cousteau. Et peu à peu, il devient un homme du 21e siècle. C'est vraiment un homme qui relie le 19e siècle au 21e siècle.
Et ce qui est formidable dans votre film, Jérôme Salle, c'est que vous repartez, vous, le réalisateur, sur les pas avec les comédiens et vous nous emmenez tous sur les pas de ces découvertes du commandant Cousteau, notamment du 6e continent, l'Antarctique, cette banquise incroyable avec des plans d'une beauté à pleurer. Vous, ça a été un moment de tournage incroyable pour vous. Vous avez même eu des émotions, une prise de conscience particulière.
Ouais, c'est quelque chose qui nous a marqué tous, toute l'équipe, les acteurs, les 3 acteurs principaux étaient là. On était une équipe minuscule, on était le premier film de fiction à être tourné là-bas. Donc pour le coup, on était tout à fait dans l'esprit Cousteau, dans le sens où on était des pionniers. Et on s'est dit, comment on va va faire. On était tous sur le bateau, on logeait sur le bateau, on partageait les cabines. Et ce continent est absolument prodigieux. Il est prodigieux visuellement, on peut le voir dans le film. Il est prodigieux d'un point de vue symbolique, c'est pour ça que je tenais à y aller. C'est un continent qui n'appartient à personne, qui n'appartient à aucune nation. C'est un continent qui est sans doute le dernier lieu à la surface de la Terre, qui est un vrai lieu sauvage. Et voilà, et pour toutes ces raisons-là, je voulais y aller. C'est un des derniers grands combats auxquels Lee va participer, d'ailleurs avec le commandant Cousteau, pour obtenir ce moratoire jusqu'en 2048 pour empêcher l'exploitation de ce continent.
Où est la Calypso ?
Alors la Calypso, elle a pourri pendant 10 ans dans le port de La Rochelle après avoir eu un accident dans le port de Singapour. Et puis après, elle était dans un chantier naval à Concarneau. Et puis maintenant, elle est partie sous la houlette de Francine Cousteau en Turquie. Ouais. On ne sait pas exactement, enfin moi en tout cas, je ne sais pas ce qui va devenir de ce bateau.
En tout cas, tous les deux, vous le racontez magnifiquement bien. Yves Pacalet dans Capitaine de la Calypso, publié chez Artaud. Et vous, Jérôme Salle, dans L'Odyssée, très beau film. Merci, c'est un bonheur
vite.
De vous lire, de vous
Allez-y
voir et de vous accueillir.
C'est super.
C'est la fin de cette curiosité du week-end. On se retrouve demain soir à 20h avec le programme.
Et c'est moi qui vous donne le programme. Une balade dans les lieux sacrés. Et puis l'histoire du poivre. Le poivre, ça. Ah non, on va aussi vous raconter le destin de Claude François.
Oh, il en a forcément mangé du poivre, hein, Claude François. Si vous voulez vraiment faire
sauf
une transition.
Sauf s'il est allergique.
Ah, en attendant, bonne fin de week-end. On a besoin de repos encore. Joyeux Noël dans un instant. Vous avez le plaisir de retrouver Éric Jean-Jean et son 100% live.